Viviane Attisseau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous donner votre témoignage. Vous êtes maman d'un enfant handicapé. Vous allez nous expliquer comment vous avez découvert ce handicap, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous vivez cela au quotidien.
Bonjour, chères auditrices et auditeurs de la Voix Mariale. Je me présente, je suis Madame Attisseau Viviane, j'ai 38 ans. Je suis la maman de deux enfants, donc deux filles. Lorraine, qui est la plus âgée, elle a 10 ans. Et la Benjamine Emmanuela, 5 ans et demi, polyhandicapée. Donc, je vais essayer de partager notre quotidien à ma fille et à moi avec vous. Et comment le Seigneur est une source inépuisable dans notre vie. Nous sommes originaires d'Afrique noire, d'une contrée où le handicap est perçu par la population comme une malédiction dans le sens de la spiritualité. Je fais cette distinction car on peut considérer comme malédiction aussi bien tous les soucis que cette situation peut nous apporter sans penser aux esprits. Je suis chrétienne et la religion catholique est très présente chez nous. Mais notre culture est très imprégnée de pratiques animistes et très peu de personnes font la part des choses. Sur le plan relationnel, presque tous les couples se disloquent. L'enfant en situation de handicap est mis au rebut, forcé à être caché de la communauté, car source d'opprobre pour la famille. Oublié. Enchaîné, laissé dans une situation déshumanisante, et la femme qui l'a mise au monde est presque maudite. On suit le contact de cette femme et de son enfant. Et pour que le couple perdure, l'enfant est caché, oublié, presque enterré. L'enfant est mis dans une situation qui le fait décliner. Qui le laisse dans un état végétatif et pour finir peut-être mourir, disparaître. Et la famille en ce moment est presque soulagée. Sur le plan sanitaire, n'oublions pas que beaucoup de localités en Afrique en sont presque à l'âge de pierre en médecine. Ajoutée aux a priori ethniques, la situation n'en devient que désastreuse. Le manque de matériel pour les analyses, même quelquefois quand il y a la compétence, ne permet pas d'établir un diagnostic juste. Les soins primaires peuvent être administrés, mais la pathologie non détectée se développe et fait des ravages. Ainsi, on a diagnostiqué un neuropaludisme à ma fille. La laissant convulser plusieurs fois. Aujourd'hui, elle a une partie du cerveau lésée, ce qui la laisse avec un handicap psychomoteur très important et des crises épileptiques sévères en situation fiévreuse. J'ai été contrainte pour la survie de mon enfant de m'expatrier avec elle pour qu'elle puisse être sauvée. Emmanuela, elle présente un retard mental sévère avec des troubles autistiques et un syndrome tétrapyramidal. Elle est susceptible de faire de graves crises épileptiques en état fiévreux, bien sûr. Et j'avoue que c'est les crises que j'appréhende le plus pour elle. Celles qu'elle a déjà eues ont duré des heures malgré une prise en charge rapide. Et elle finit toujours hospitalisée des jours durant. C'est ma hantise car j'ai toujours la crainte de la perdre en ces moments-là ou qu'elle puisse regresser, qu'elle n'ait d'autres séquelles. Je prie tous les jours pour que son traitement fonctionne et je fais très attention à sa santé. Au début, je paniquais dès qu'elle présentait quelques symptômes. Maintenant, j'essaie de relativiser, car elle a besoin de moi, de toute mon attention, de ma vigilance. et je n'ai pas le droit de me laisser déstabiliser par les émotions. Emma ne parle pas, elle ne marche pas encore. Et quel impact l'handicap a sur notre vie ou bien sur ma vie à moi? Ma vie a totalement changé. Rien n'est plus comme avant et ne sera plus jamais. Il y a une vie d'avant et une vie d'après. Et bon, tant mieux. Car l'handicap de ma fille m'a fait grandir humainement et ma foi est plus consolidée. Tous les jours, j'affronte notre quotidien et à la fin de la journée, je rends grâce. Ben, ne nous voilons pas la face. C'est un travail de longue haleine. Ma fille, elle a besoin d'aide pour tout. Et il n'y a pas de répit, car je suis seule à l'élever. Elle se déplace à genoux et à quatre pattes. Elle porte tout à la bouche et elle n'a aucun sens du danger. Ben, ce qui demande une surveillance constante. Elle n'est pas propre. Je dois m'en occuper donc comme un bébé. Toute ma vie se définit en fonction d'elle. Elle est sur liste d'attente pour un établissement spécialisé. Je crois qu'une prise en charge dans une telle structure l'aidera à évoluer. Je suivrai tout cela avec elle, car aujourd'hui je me sens souvent inutile, démunie, de ne pouvoir lui apporter plus, car je sens en elle beaucoup de capacité d'adaptation. Elle adore la musique et les promenades à côté des as routiers. Il reste plein de choses à lui faire découvrir. Vu notre parcours, sa rééducation a débuté récemment. Mais selon les professionnels de santé, si cette rééducation avait été mise en œuvre dès les premiers âges, elle aurait donné de bons résultats. Moi, j'ai toute confiance en la capacité de rebond de ma fille. Je ne dirai pas que je me voile la face pour supporter la situation, mais je ne suis pas d'un tempérament défaitiste. C'est le sens même de la foi, pour moi, en tout cas, que de croire en un avenir meilleur. Avant, je ne m'étais jamais posé la question de l'handicap. Nul ne peut le prévoir. A fortiori, quand tous les examens prénataux sont bons, tout est bien, et pourtant à la naissance, tout peut basculer. Et voilà, il y a différents types d'handicap qui peuvent survenir également dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Voilà, on ne peut pas le prévoir. Une petite anecdote, hein. Je me souviens quand ma fille est née, elle était dans sa deuxième année de vie, elle faisait des bulles de salive pour s'amuser, et moi, cela m'insupportait. Je trouvais cela dégoûtant, et je m'énervais contre elle. J'ai tenu très tôt à lui faire comprendre que je ne saurais l'accepter. Mais voilà, qu'Emma avait sa situation bave souvent, et je ne saurais le lui interdire. Je me tenais aux aguets pour lui essuyer et je refusais de lui mettre un bavoir, car cela montrera immédiatement sa différence. Mais aujourd'hui, j'ai accepté. C'est une situation qui me pousse dans mon retranchement. Et on se rend compte qu'on peut toujours faire plus, quoi, qu'on a la capacité de faire. On a une énergie. On a toujours la capacité de faire plus. Par-dessus tout cela, je remercie le Seigneur, chaque jour qui passe, de m'avoir donné cette mission. Je me dis souvent qu'elle est la main de Dieu dans ma vie. Elle est mon bâton du pèlerin. Elle m'insuffle l'énergie de tous les jours. Elle donne une profondeur à ma vie. Elle me rend plus forte, plus résistante, plus endurante. Et comme le dit la lettre de Saint-Jacques de ces jours-ci, il faut considérer comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et vraiment, c'est ce que je ressens tous les jours. Ma fille, elle me souffle l'énergie de tous les jours et donne une profondeur à ma vie. Elle me rend plus, voilà, plus fort, quoi. Je me sens plus tolérante et elle me permet de me remettre en question perpétuellement. Je ne prends plus rien pour acquis. Tout est grâce. Souvent, au centre de rééducation de mon enfant, je rencontre des parents qui sont toujours à l'étape de l'acceptation. Je ne me rappelle pas quand je l'ai fait, moi. J'ai toujours été dans le combat. Et c'est indéniablement mon enfant. C'est un ange. Le handicap ne la définit pas. C'est juste un pan de sa personne, de sa personnalité. Même si la science démontre qu'elle a une grande déficience, moi, je la trouve intelligente. Notre entourage est aussi de cet avis. Emanuela ne parle pas, mais on peut la comprendre si on passe un peu de temps avec elle. Elle n'est pas du tout violente, elle est très câline, elle joue bien, mais toute seule. C'est un peu difficile d'être en interaction avec elle, mais j'ai foi en son évolution. En plus de cela, j'ai foi en la miséricorde divine. J'ai conscience en Dieu. Je me laisse porter par son amour et sa parole. Avec lui, je ne me sens pas porter tout le poids du monde sur mes épaules. Bien sûr, il y a des jours où je me sens exténuée, mais pour autant, je n'éprouve pas un grand désespoir du fait de l'état de mon enfant. J'ai plutôt l'impression que c'est elle qui me maintient en état de grâce auprès de Dieu, car elle est pure, elle est innocente et sans aucune malice. Elle peut être en colère, mais ce sera toujours pour un manque. Rien n'est calculé chez elle. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui où l'individualisme est cultivé à l'extrême, les gens doivent souvent essayer d'être en contact avec les personnes en situation de handicap pour redécouvrir l'humanisme. Mes perspectives à l'avenir, c'est pouvoir intégrer totalement le handicap à ma vie, avoir une vie sociale, pas seulement avec des personnes vivant avec la réalité de l'handicap, mais avec tout le monde. Je dis l'intégrer à ma vie car maintenant je ne fais que cela et j'avoue avoir besoin d'aide. Toute la volonté du monde ne suffit pas. Le Seigneur m'allège le cœur, mais mon enveloppe charnelle fatigue. Elle est grande, ma fille, et je suis chaque jour un peu plus épuisée. J'aimerais, après un moment travaillé, avoir une parenthèse pour souffler et revenir auprès de mon enfant plus à l'écoute et plus sereine. J'ai besoin d'exister aussi un peu pour moi pour être totalement épanouie et pour que mon enfant en bénéficie. Par-dessus tout, je veux exhorter ceux qui vivent la réalité du handicap à ne pas à se laisser porter par le Seigneur, parce que tout devient presque léger sous sa garde. Accepter nous permet de vivre sereinement la situation, mais tout cela se fera facilement si on se laisse guider par le Christ. Ne pas se culpabiliser, accepter que l'on n'a d'emprise sur rien, mais avoir une confiance continue en Dieu. Tant que l'espoir réside dans notre cœur, le désespoir passera son chemin. Enlever la honte de notre cœur, c'est plutôt ceux qui nous jugent et qui devront éprouver de la honte. Souvent, on se sent dépassé à cause du regard des autres. Il faut avoir la tête haute, oser sortir, affronter le regard extérieur, c'est une lutte permanente. Même si je n'y arrive pas, souvent non plus, je ne renonce pas. Les autres ne nous accepteront pas que si nous bravons, c'est parmi eux. Nous, on ressent peut-être de la répulsion de la part des autres, mais je crois que souvent, c'est la peur et la hantise de cette réalité qui pourrait subvenir dans la vie de tout un chacun qui se reflète sur leur visage. Un sourire bienveillant, même furtif, éclaire la journée des accompagnants. on se sent soutenu et on reprend plus de force pour la suite. J'aimerais aussi exhorter les proches de ne pas être dans la fiction devant les parents vivant cette réalité, parce que moi, j'ai un proche, des proches qui souvent, peut-être croyant être dans la compassion, se plaignent de la situation, de ce qui aurait dû être. Et ils me demandent à chaque minute les progrès que Emmanuel a accomplis, quoi. Et nous, les parents, nous sommes tellement contents de chaque avancée de nos progénitures que nous ne manquerions pas de le crier sur tous les toits. Alors, j'aimerais dire patience. Nous en avons besoin, nous qui vivons cette réalité. Nous avons besoin de positivité et d'écoute. Pour finir, j'aimerais vous lire ce petit poème de Massani, recueilli sur la page d'accueil de la maison Auberquiche. C'est un foyer d'accueil médicalisé, une maison d'accueil spécialisée. Voilà, le texte m'a touchée, hein. Il m'a parlé, alors j'aimerais le partager avec vous. J'avais peur, je dois le reconnaître, mais ça, c'était avant de tout connaître. J'avais peur comme on craint ce qu'on ne connaît pas. J'avais des préjugés, toi tu n'en avais pas. Je ne savais pas ce qu'il fallait te dire. Si tu me comprends, les gestes à proscrire. Si tu étais pour moi un adulte, un enfant. Mais j'ai compris très vite, tu es toi simplement. Tu es venu vers moi, visage souriant. Tu m'as pris par la main d'un geste rassurant. Moi, je voulais t'aider, c'est toi qui m'as aidé. Et notre différence s'est très vite effacée. Si tes yeux sont brisés, si tes yeux sont bridés, je le sais aujourd'hui, c'est d'offrir tout le temps un visage ravi. Si ton cœur est si gros, c'est pour mieux contenir tout cet amour immense que tu veux nous offrir. Veux-tu que je te dise où est la différence? Toi, tu sais tout donner, sans pudeur, sans méfiance. Moi, de mon côté, j'apprends à regarder derrière le handicap ta belle humanité. La tolérance, vois-tu, c'est quand l'intelligence, pas celle de l'esprit, mais bien celle du cœur, réussit à gommer toutes les différences, à reconnaître chez l'autre sa véritable valeur. C'est ce que j'avais à partager avec vous.
Viviane, nous avons une auditrice qui souhaiterait vous poser une question. Il s'agit de Sylvette. Sylvette, c'est à vous.
Oui. Bonjour, Viviane.
Bonjour.
Oui. Déjà, je voulais vous dire que désormais, dans mes prières, j'aurai une intention pour vous et pour votre fille. Et votre fille, vous lui avez donné le prénom Dieu avec nous. Donc, vous serez... Le bon Dieu ne vous abandonnera pas,
merci
même si
beaucoup.
C'est difficile, mais déjà vous aviez choisi le prénom pour vous accompagner. Voilà. Et
oui,
vous faites de gros bisous à vos deux filles, parce que je n'oublie pas la grande.
Oh, ouais, vraiment, c'est la grande qui en pâtit, j'ai dû la laisser au pays. Elle n'est pas avec
vous
nous, malheureusement.
D'accord, pardon. Mais bon, vous faites alors de grosses bises à Emmanuela.
Voilà.
D'une mamie qui vient de sortir d'un cancer, mais alors que c'est rien du tout. Et je vous promets, ça y est, je suis guérie. Et donc, tout est possible quand on croit en la divine miséricorde, je vous promets. Et donc,
merci
je
beaucoup.
Vous soutiens dans mes prières. Voilà.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup. Hein. Je suis très touchée.
Voilà. Au revoir et bon courage. Je vous soutiens dans mes prières.
Merci.
Merci beaucoup, Sylvette. Alors, Viviane, en écoutant votre témoignage, il m'est revenu à la mémoire un passage de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 9. Lorsqu'il est écrit, en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. En fait, on se rend compte que ce que vous avez décrit de la culture africaine qui montre du doigt les personnes handicapées comme étant frappées de malédiction, on se rend compte que dans d'autres cultures, telles que la culture juive de l'époque de la vie terrestre de Jésus, il y avait les mêmes interrogations et les mêmes a priori.
Oui, c'est tout à fait ça. Moi aussi, j'ai fait. Ça, c'est. Mes pensées étaient allées à là aussi. C'est tout à fait ça. Mais moi, plutôt, je pense qu'il n'est rien de tout cela. Je pense que pour que la grandeur du Seigneur se manifeste, il faut quand même, moi quand je vois Emmanuela, je ne la vois pas comme une, voilà, c'est pas, c'est comme si Dieu essayait de se révéler à travers elle, c'est un témoignage de Dieu pour moi, vous comprenez? Donc, tous ces a priori, bon, voilà, j'ai trouvé ça, c'est une situation très difficile, hein. Tout le monde autour de vous, on vous regarde, c'est insupportable, c'est pas humain, moi je trouve, parce que la maladie, on ne la choisit pas, l'handicap, c'est comme toute autre maladie, hein. Ça peut être autre chose aussi, mais voilà, c'est des gens différents, un peu différents de nous, mais ils offrent quelque chose d'inestimable.
Alors, nous avons reçu un message de Monique qui écrit ceci. Bonjour madame et merci infiniment pour votre magnifique témoignage d'amour. Je place votre petite Emmanuela dans mes prières et dans mon cœur, ainsi que sa grande sœur et vous-même madame. Et c'est signé Monique. Voilà, merci beaucoup Monique pour ce message.
Merci beaucoup Monique. Merci, merci beaucoup.
Alors,
vraiment, ça nous touche. On se sent, voilà, on ne se sent plus tellement seul parce qu'on se sent souvent seul.
Alors,
à part, voilà, on a quelque part en nous, ce qui ne nous fait pas flancher, par contre, c'est qu'on sait que même si les êtres humains tout autour de nous ne sont pas là, il y a une puissance, la puissance divine. Hein. Dieu, il est tellement présent, quoi. Il est tellement présent.
Alors, une question peut-être un petit peu difficile. Je m'en excuse d'avance, Sylvette l'a un petit peu évoqué en parlant de votre fille aînée. Si je comprends bien, votre mari, votre fille aînée sont restés dans votre pays d'origine. Est-ce qu'ils n'avaient pas la possibilité de vous suivre ou est-ce que c'est un choix délibéré? Comment votre mari a vécu cette situation?
Le couple, c'est, voilà, il y a presque plus de couple, c'est un peu difficile, hein, vraiment, la situation, ça a laissé des impacts sur tous. C'est ma fille aînée qui est, voilà, ma préoccupation première. Voilà, ça souffrira, je ferai tout mon possible pour qu'elle puisse nous rejoindre, quoi, voilà. Voilà, sinon j'ai pas choisi de les laisser derrière, mais la situation, voilà, je ne pouvais rien, je n'avais que la possibilité, je pensais premièrement à mon enfant qui était, voilà, elle est innocente, elle ne peut pas se défendre, et moi non plus, voilà, parce qu'elle est rattachée à moi. Je suis la source du problème, voilà, puisque c'est moi qui lui ai donné la vie. Et il fallait que, voilà, je trouve une solution. Et c'était tout ce qui était possible, c'est d'y aller avec elle et de voir, voilà, de la sauver, premièrement, voilà. Et après, j'ai jamais oublié sa grande sœur, hein, c'est ma chair aussi. J'y pense à tout moment et voilà, j'essaie d'être en communication avec elle tous les jours. Voilà.
Voilà, mais en tout cas, ce qui, je vais rejoindre Sylvette et Monique. Et également, ce que nous avons vu de l'évangile selon saint Jean, vous n'êtes en rien responsable, bien sûr, de cette situation. Il y a des épreuves qui arrivent dans la vie et vous avez fait donc votre choix, ça a été, parce qu'elle était en danger de mort, c'était de sauver votre petite Emmanuela.
C'est ça. C'est tout à fait ça.
Alors, peut-être une autre question. Depuis combien de temps êtes-vous arrivé en France et du coup, depuis combien de temps Emmanuela a pu bénéficier de soins plus adaptés? Et d'ailleurs, depuis combien de temps est-elle malade?
Ben, Emmanuela, je ne sais pas, tout avait commencé à la naissance. On m'avait dit qu'elle était bien. C'est ce qui m'avait été dit, en tout cas là-bas, qu'elle était bien, qu'elle allait bien. Mais on a constaté dans sa première année de vie que voilà, elle pleurait beaucoup. Elle pleurait beaucoup. Et avec quelques secondes, elle se taisait et puis se crispait, devenait toute bleue. C'était quelque chose qui durait des secondes et voilà, elle se relâchait, elle recommençait. Donc elle dépérissait un peu, elle ne mangeait pas, elle ne voulait pas non plus. Voilà, elle était à l'allaitement simple, voilà, elle ne voulait plus pas allaiter non plus. Donc je m'étais rendue à l'hôpital avec elle une semaine après. Et là, ils m'ont dit qu'elle avait un peu de fièvre et que probablement qu'elle faisait une infection bactérienne. Bon. Donc, elle a été hospitalisée 2 semaines. Elle a été prise en charge par une biothérapie. Elle a été prise en charge, mais après 2 semaines, elle allait bien. Bon, elle paraissait bien. Et elle mangeait, elle commençait par se développer comme il fallait. Elle était très bien. Mais j'ai constaté après 2 mois que, voilà, à chaque fois, elle faisait de la fièvre. Et les fièvres étaient très élevées, car ça tendait vers les 40 et c'était difficile de les rabaisser. Mais quand j'allais dans les hôpitaux, ils me disaient toujours que c'était une infection bactérienne. Et bon, je disais lequel, bon, eux, voilà, il n'y avait pas. Ils ne faisaient pas une recherche particulière. Donc, c'était comme ça. Je leur posais des questions, mais bon, c'était un mur devant moi. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que mon enfant, voilà, elle devait à chaque fois répéter les mêmes infections, mais à vue d'œil, elle était très bien. Elle ne dépérissait pas, elle grandissait bien. D'ailleurs, Emmanuela, elle paraît tellement plus grande que son âge, les 5 ans et demi. Donc, elle a fait une première crise à 3 mois. Après, elle en a refait à 6 mois et eux, ils me disaient que c'était un palu. C'était un enfant qui était un peu des systèmes unitaires un peu faibles, donc que le paludisme attaquait son cerveau. Bon, c'était un truc que je ne comprenais pas parce que je faisais tout. Emmanuela, elle était protégée, elle dormait sous moustiquaire et autres, donc il n'y avait pas de moustique, je ne comprenais pas. Donc, c'est comme ça que ça a débuté, au fait. Et ils n'ont jamais détecté ce qu'elle avait. Donc, jusqu'à tout ce moment-là, elle se développait bien, mais elle ne s'asseyait pas. J'essayais de la faire asseoir. Et quand je leur en parlais, ils disaient que c'était tout enfant avec son développement, que ça viendra. Jusqu'à 1 an, ça n'allait pas du tout. Donc, c'est 1 an qu'ils ont essayé, puisque les crises se répétaient. Et puis, ce n'était pas des petites crises. Hein. C'est un enfant qui n'arrivait pas à sortir de sa crise. Et donc, elle était amenée à l'hôpital, hospitalisée. Et ce qu'ils lui donnaient, c'était juste du Valium. Mais après, il n'y avait pas un traitement. On ne cherchait pas ce qu'elle avait spécifiquement. Et qui, bon, pour eux, c'était un neuropaludisme. Donc voilà, donc je crois que les crises ont encore provoqué d'autres, ont laissé d'autres séquelles. Donc voilà, ça a continué et on l'a mis par petits moments sous des patines. Et il me disait de lui donner après 1 mois, 2 mois de laisser. Après, ils l'ont mis constamment sous des packings pour un moment de 1 an, 2 ans. Et dans sa 3e année de vie, ils m'ont fait faire un scanner et ils disaient que, bon, Emmanuela allait très bien. et que ça allait aller, quoi. Donc moi, je me disais, je leur posais la question de savoir, un enfant qui va très bien et qui ne parle pas, qui ne marche pas, bon, jusqu'à ses 3 ans, elle a commencé par faire, elle s'est assise, elle faisait les 4 pattes. Donc je me disais, ils ont dit que non, que ça va aller, bon. C'était une aberration. Moi, je me rendais compte, mais je me retrouvais toujours devant des murs, quoi. Donc, on est venu ici il y a cela 2 ans, en janvier 2018, au fait. Donc, ça nous a pris. On n'avait pas des connaissances. Ce qui est difficile aussi, c'est comment savoir accéder aux soins, comment savoir où aller, ce qu'il faut faire. On a été dans des difficultés parce qu'on n'avait pas quelqu'un pour nous guider. Donc voilà, ça a pris du temps, ça a pris une année avant que, voilà, début 2019, elle ait commencé par être prise, voilà, en charge par un CAMPS, donc une petite structure qui, voilà, qui s'occupe de sa rééducation, et voilà, on lui a fait faire des analyses, et là, ça a montré que, voilà, et son cerveau a eu un choc, il y a des cicatrices, voilà, au cerveau, et il y a partie blanche du cerveau qui est, voilà, qui est effacée, quoi. Lisez donc, voilà, il y a eu quelque chose. Il peut plus retrouver, voilà, ce que c'était réellement la base, puisque ça, voilà, c'était pas au premier moment. Donc, c'est les conséquences qui sont restées. Donc, elle a eu une partie du cerveau lésée. Donc, voilà, ça a des répercussions sur toute sa vie. Mais bon, je pense que, voilà, avec tout ce qui sera fait par la suite, ça, en tout cas, ça va de mieux en mieux, hein. Mais avant, elle ne me comprenait pas du tout. Voilà, elle n'était pas dans notre... voilà, c'était difficile d'être en interaction avec elle, mais maintenant, ça va mieux. Elle est plus attentive, voilà. Et quand je lui dis, je lui parle, elle prend le temps un peu d'écouter avant. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que il y a beau, bon, je trouve que moi, ça va de mieux en mieux, quoi. Déjà, l'atmosphère un peu pourrie qu'il y avait autour de nous, même là-bas, et voilà, on l'a délaissée derrière nous, ça a fait que l'enfant, on a l'impression qu'elle respire maintenant, voilà. Donc, c'est déjà beaucoup.
C'est vrai que les enfants... Qu'il soit handicapé ou non, hein, tout enfant et toute personne d'ailleurs ressent les effets de son environnement. Et si, une personne, et à plus forte raison un enfant, est entouré de personnes entre guillemets hostiles, il va le ressentir et il va réagir en conséquence. Donc c'est vrai que si votre petite fille est dans un environnement accueillant, elle ne peut que faire des progrès.
Ça, c'est vrai. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà, c'est quelque chose de vraiment effectif. Parce que je vous assure que tout le moment où on a passé en Afrique, Emmanuela ne dormait pas la nuit. Et voilà, même durant la journée, elle était toujours agitée, elle pleurait. Voilà, quoi. C'était un peu infernal, quoi. On savait qu'elle n'était pas en paix, ça n'allait pas. Donc, mais je vous assure que au lendemain du jour où on était venu là, moi-même j'avais crainte que, voilà, ça ne continue et qu'elle n'ait ces crises de larmes à répétition durant la nuit, quoi. Mais je vous assure, hein, c'était un miracle. Emmanuela, à partir de ce jour-là, elle a commencé par faire les nuits. Même si elle ne dormait pas tout à fait profondément, les crises de pleurs ont cessé immédiatement. Et ça, c'est stupéfiant, quoi. On voit ce que l'impact de l'environnement peut avoir sur une personne.
Alors, il y a Sylvette qui a téléphoné tout à l'heure, qui a envoyé un message. Elle vous dit, sachez que les regards des autres sur vous deux est un regard de gens handicapés eux-mêmes de par leur réaction. Et oui, il y a des gens qui sont handicapée au niveau des relations avec les autres. Ça se traduit et ça s'explique par peut-être une mauvaise connaissance, une ignorance de ce qu'est réellement le handicap. Vous l'avez dit tout à l'heure, les gens, quand ils voient une personne handicapée, ça les renvoie à leur propre crainte de subir ce type d'épreuve.
Oui, c'est vrai. C'est ce que moi j'en déduis. Parce que, voilà, même si la personne affiche une arrogance, vous allez rencontrer. Mais là, je trouve que c'est. J'ai vu la différence. Ici, c'est. Même si, bon, on dit que normalement en Afrique, il y a beaucoup de chaleur, hein, ça veut dire la chaleur humaine, ils sont très compatissants, ils sont dans l'empathie, quoi. Mais à côté de ça, l'handicap, c'est, voilà, ça vous renvoie l'autre face de la chose. Et c'est pour ça que vous allez encore ressentir le plus l'impact de la chose. Parce que vous étiez dans un environnement où vous étiez dans une grande famille, quoi. En Afrique, tout le monde, ceux qui ne sont même pas vos proches, voilà, tout le monde, c'est une grande famille. Mais le handicap vous met totalement en dehors de la famille. Et là, vous vous sentez véritablement démunis, quoi. Il n'y a que quelques proches qui sont dans l'empathie avec vous, mais ça ne va pas du tout. Donc, ici, au moins, les gens ont des droits. Vous voyez? Les gens ont des droits. Et ça se sent. Donc, quelques-uns qui ne vous manifestent pas de l'empathie. Je trouve que c'est plus supportable. Je trouve qu'ici, au moins, il y a une évolution de la mentalité. Les gens prennent un peu plus conscience que c'est des gens, voilà, auxquels on doit penser, on doit les aider. Donc, c'est déjà beaucoup. Les autres qui n'en ont pas encore conscience, voilà, j'espère vivement pour eux, voilà, qu'ils vont changer. Parce que, je le redis encore une fois, c'est pas une chose que l'on peut prévoir. C'est pas tous les handicaps, les maladies ne sont pas génétiques forcément. Il y a des choses que vous n'allez jamais. Aujourd'hui, vous allez très bien. Vous ne saurez jamais ce que de demain, de quoi ce sera fait. Vous ne pourrez jamais le prévoir. Donc, il faut que tout le monde fasse ce travail sur soi, quoi.
Alors, un dernier message de Sylvette qui ajoute « Je pense que les mots sont faciles à dire en raison de vos difficultés de chaque jour. Ayant fait l'aumônerie auprès d'enfants différents de la majorité dans un centre spécialisé, j'ai reçu beaucoup de leur part et j'ai emmené mes 3 enfants passer une matinée avec eux. Ils ne les ont pas vus différents et ils ont vécu ensemble de très joyeux moments. »
D'accord. Ok, merci.
Est-ce qu'Emmanuela a contact avec d'autres enfants dans votre nouveau lieu de vie?
Non, puisque je vis avec elle, je suis seule, j'ai pas tellement de connaissances, j'ai pas d'amis, j'ai tissé quelques relations. C'est difficile d'en tisser, hein, parce qu'on vit replié sur soi avec l'enfant à tout moment. Moi, j'essaie de la sortir. Je n'ai même pas le choix, puisque je n'ai personne pour m'aider au fait que je vais partout avec Emmanuela. Et je suis même, la plupart du temps, je prends sur moi parce que je me rends compte que quand je sors avec elle, je suis presque la seule personne à promener un enfant dans cet état, souvent comme ça. Mais au même moment, je me dis que la contrainte nous sert. Parce que on ne doit pas les empêcher de vivre. Ils ont le droit de vivre comme les autres. Ils doivent être partout. Et les gens doivent les accepter. Et c'est une partie de nous, quoi. Ça doit être comme ça. Donc, pour le moment, j'avoue que j'aimerais avoir des contacts avec d'autres personnes vivant cette réalité, avoir des moments de partage et autres, mais j'ai pas encore réussi. Je n'ai le contact que quelques fois avec des parents que je rencontre au centre de rééducation. On échange un peu, mais voilà, on ne va pas plus loin, on ne se voit pas en dehors du centre en tout cas.
Alors, Viviane, nous arrivons au terme de cette émission. Merci en tout cas pour ce beau témoignage, pour votre espérance et pour ce combat que vous menez pour Emmanuela. Voilà, soyez vraiment assurés des prières de toute l'équipe et de tous les auditeurs. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à donner aux auditeurs de Radio Maria?
Bah, tout ce que j'aimerais dire, c'est que vraiment, je ne sais pas comment dire, on ne peut pas souhaiter qu'un malheur il nous arrive, hein, mais dans le malheur, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau qui en sort, et de notre capacité à pouvoir rebondir, à aller de l'avant. Si, voilà, on voit au-delà, il y a tellement de belles choses à découvrir, et le Seigneur, il est présent. Il est vivant, hein, et il agit. Donc, que tout le monde ait de l'espoir, moi j'en ai. Oui, il y a des jours où je suis terriblement abattue, mais par contre, je n'ai jamais douté qu'il était présent et qu'il agira. Voilà, il fera de son mieux pour nous. Donc, c'est ça, c'est un message d'espoir que j'aimerais partager avec tous. Merci à tous et voilà ceux qui nous ont envoyé des mots, qui ont pensé à nous, et merci pour vos prières. Merci infiniment.
Merci Viviane, à bientôt.
À bientôt.